Itinéraire de femme. Anne André.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes dans l'émission Itinéraire de femme, consacrée à la présentation du parcours singulier de certaines d'entre elles. Notre émission est aujourd'hui consacrée à deux contemporaines scientifiques, Clara Barton et Elizabeth Blackwell. Clara Barton est américaine, elle fut infirmière. Elizabeth Blackwell est anglaise et fut médecin. Pour retracer le parcours de ces deux femmes dévouées et engagées, nous nous référerons à l'ouvrage de Carrie Lewis, « Elles ont changé le monde », 60 portraits de femmes d'exception, paru aux éditions L'Imprévu en 2019. Nous commencerons tout d'abord par Clara Barton. Elle est née en 1821. Elle a été enseignante, conférencière et infirmière. Durant la guerre de Sécession, Clara Barton soigna les soldats sur les champs de bataille. Elle est ainsi avant tout connue pour être la fondatrice de la Croix-Rouge américaine. Femme de courage qui voit sa vie au service d'autrui, elle fut surnommée « l'ange du champ de bataille » pour sa participation active aux soins prodigués aux soldats blessés. Sa vocation remontait à l'enfance lorsqu'elle veilla au rétablissement de son frère victime d'un accident. Devenue enseignante, elle ouvrit plus tard sa propre école. En 1861, au commencement de la guerre de Sécession, Clara Barton souhaita apporter son aide à l'armée de l'Union et commença par distribuer des vivres avant de porter assistance aux soldats directement sur les champs de bataille, et ce, dès 1862. Une fois la guerre achevée, elle travailla au War Office où elle aida les familles à retrouver leurs proches disparus. En 1870, Clara Barton visita l'Europe et apporta son aide au Comité international de secours aux militaires blessés lors de la guerre franco-allemande. De retour aux États-Unis, elle décida d'établir une organisation similaire dans son pays. En 1881, à la création de la Croix-Rouge américaine, Barton en devint la première présidente et supervisa l'aide apportée aux victimes des inondations de Galveston et de Johnstown. En 1907, elle rédigea son autobiographie « The Story of My Childhood », puis continua à travailler et à donner des conférences jusqu'à sa mort en 1912. Nous allons maintenant retracer le parcours d'Elizabeth Blackwell. Cette dernière est née en 1821. Elle est anglaise. À l'époque où recevoir une éducation était une chance pour une femme, et où faire carrière relevait de l'exception, Elizabeth Blackwell réussit à passer son diplôme et à pratiquer la médecine. Ayant à lutter toute sa vie contre les préjugés, elle multiplia les demandes d'inscription auprès de différentes écoles de médecine. Le Hobart and William Smith College de Geneva, près de New York, finit par l'accepter, pensant d'abord à un simple canular. Pourtant, en 1879, Elizabeth Blackwell devint la première femme aux États-Unis à obtenir un diplôme de médecin. Née à Bristol, en Angleterre, au sein d'une famille qui émigra aux États-Unis et milita en faveur de l'abolitionnisme, Elizabeth savait ce que signifiaient préjugés et oppressions. Sa vocation première n'était pas la médecine, mais le décès d'un ami en décida autrement. Elle mit ses amis à contribution dans la recherche d'une école qu'il accepta, et si la majorité restait convaincue qu'il était impossible pour une femme d'étudier la médecine, sa détermination finit par payer. Après un épique combat pour ses études, elle dut encore lutter pour trouver un emploi. Elle finit par travailler à Londres et à Paris, où elle suivit une formation en obstétrique avant de rentrer aux États-Unis. Aidée de sa sœur et du docteur Marie Zakretska, Elizabeth fonda en 1857 le New York Infirmary for Women and Children, un dispensaire à l'attention des familles pauvres de New York. Quelques années plus tard, l'établissement proposa une formation théorique et pratique à l'attention des femmes souhaitant exercer la médecine. Alors que sa santé commençait à décliner, Elizabeth Blackwell trouva la force de se battre jusqu'à la fin de sa vie en faveur des droits des femmes et milita pour offrir à celles qui le souhaitaient un meilleur accès à des soins prodigués par un personnel médical féminin. Elle ouvrit la voie à une égalité aujourd'hui perçue comme une évidence au sein de la communauté médicale. Chères auditrices et auditeurs de Radio Shalom, dans la continuité des deux parcours précédents, ceux de Clara Barton et de Elizabeth Blackwell, nous allons compléter par un autre portrait, celui de Rosalind Franklin, chercheuse spécialisée dans l'ADN. Donc pour retracer le parcours de cette femme très engagée, nous nous référons à l'ouvrage de Carrie Lewis, « Elles ont changé le monde », 60 portraits de femmes d'exception, paru aux éditions L'Imprévu en 2019. Rosalind Franklin est britannique. Elle est née en 1920. C'est une femme de l'ombre. Sa contribution à la découverte de la structure de l'ADN fut dans un premier temps ignorée et certains s'approprièrent une partie de ses recherches sans son autorisation. Sa mort prématurée ne lui laissa pas le temps de défendre sa cause, mais d'autres le firent pour elle. John Desmond Bernal, physicien de renom, lui rendit hommage à ses funérailles. En tant que scientifique, Miss Franklin se distinguait par l'extrême clarté et la perfection qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Née au sein d'une prospère famille londonienne, Rosalind était à l'évidence une enfant douée. À 15 ans, elle voulait déjà devenir une scientifique. À 18 ans, elle entra au Newman College de Cambridge pour étudier la chimie, puis poursuivit ses études et obtint son doctorat en 1945, avec pour sujet de thèse la porosité du charbon. L'année 1946 marqua une avancée majeure dans sa carrière, alors qu'elle travaillait à Paris aux côtés du cristallographe Jacques Mehring. Il enseigna à la jeune femme les techniques de diffraction des rayons X qui se révélèrent du plus grand intérêt lorsqu'elle réalisa plus tard des radiographies de la structure de l'ADN. Rosalind fut pionnière dans l'utilisation des rayons X pour créer des images de solides cristallisés au sein de la matière inorganisée. De retour en Grande-Bretagne, elle travailla au King's College à Londres sous l'autorité de John Randall qui utilisa son expertise en cristallographie pour étudier les brins d'ADN. Les clichés obtenus par Franklin étaient si précis qu'ils proposaient une approche inédite de la structure de l'ADN. Ainsi, elle découvrit que l'ADN se présentait sous deux formes, A ou forme sèche et B ou forme humide. Parmi les clichés de la forme B se trouvait celui que l'on connaît sous le nom de photographie 51 et qui se révélerait essentiel dans l'étude et la découverte de la structure à double hélice de l'ADN. Cette photographie résultait d'une exposition d'une centaine d'heures au rayon X sur une machine améliorée par Rosalind. Dans le milieu scientifique, Rosalind Franklin était connue pour sa rigueur et le soin extrême qu'elle apportait à chaque étape de son travail. La qualité de la photographie 51 est en grande partie liée aux efforts qu'elle fournit pour améliorer la machine, régler l'exposition et développer ce cliché à la perfection. Malheureusement pour Rosalind Franklin, à la suite d'une querelle avec son collègue Maurice Wilkins, cette photographie fut montrée à Francis Crick et à James Watson de l'université de Cambridge sans qu'elle en soit informée. Crick et Watson étudiaient aussi l'ADN et la photographie 51 leur permit de confirmer leur théorie. En observant la photographie, Watson confia en être resté bouche bée et avoir eu le cœur qui s'emballait. En avril 1953, Crick et Watson publièrent leur découverte, celle de la structure de l'ADN qui leur vaudrait en 1962 le prix Nobel de physiologie ou médecine. Le patron de Rosalind Franklin, John Randall, trouva un accord avec l'université de Cambridge stipulant que Franklin et Wilkins devaient être cités pour l'importance de leur contribution dans la découverte de Crick et Watson, mais ces derniers ne les reconnurent jamais à titre de co-auteurs de leur publication. Rosalind Franklin quitta le laboratoire en 1953 et ne fit jamais mention de l'utilisation de ses travaux à son insu. À 36 ans, Rosalind apprit qu'elle avait un cancer dont elle décéda en 1950. Elle travailla jusqu'au bout et laissa derrière elle un héritage muet dans un domaine scientifique encore ignoré de beaucoup.
Itinéraire de femme. Anne André.